France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir l'événement télévisuel le plus regardé au monde hors compétition sportive, le concours de l'Eurovision. La finale, ce sera demain soir à Bâle en Suisse, on en a parlé dans le journal de 19h. Alors ce soir au téléphone sonne, on va moins parler de musique que de diplomatie de l'Eurovision, car il existe bien une géopolitique de ce concours européen. D'ailleurs, dès sa création, en 1956, l'idée était déjà de symboliser la réconciliation des nations de ce continent. Et depuis, d'autres pays non européens ont rejoint la liste des participants. Je pense à Israël ou l'Australie. Et on verra pourquoi avec nos invités. À Bâle, ces derniers jours, lors des répétitions, la candidate israélienne a été chahutée par des pro-palestiniens. C'est de la géopolitique. Et il y a aussi des pays qui condamnent la place faite dans ce concours aux communautés sexuelles et de genre. C'est encore une forme de lobbying international. Voilà donc un concours de l'Eurovision avec ses contradictions. La fête, oui, mais que faire de ses convictions politiques? C'est l'équation que je vous propose, si ce n'est de résoudre, au moins de décortiquer ce soir. J'attends vos questions, vos témoignages. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec un premier auditeur, Dominique, qui nous appelle de Nantes. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir à toute l'équipe. J'arrive pas à comprendre, c'est le dénigrement que la France peut avoir sur l'Eurovision. Ça fait un peu kitsch, mis à part la communauté gay qui font la fête. Mais même les radios, mais j'ai vu sur des radios privées, je sais pas, on trouve ça ringard. En Belgique, j'ai des amis en Belgique, mais la Belgique, ils font la fête. Les Allemands aussi, mais la Belgique, c'est la fête. Mmh. Et moi, j'ai appris avant-hier qu'il y avait des demi-finales. En Belgique, on les regarde partout. En France, il n'y a aucune promo qui est faite. France 2 ne fait pas de promo. Je l'ai entendu par hasard à l'émission C'est à vous d'Anne-Elisabeth Lemoine sur la 5, mais c'est tout. Pourquoi on ne parle pas des demi-finales? Voilà.
Eh bien, on va essayer ensuite, de vous... Oui, ensuite, allez-y.
Ensuite, c'est ce qui m'agace, j'ai beau être anglophone, c'est qu'on devrait imposer que chaque pays chante dans sa langue pour la diversité culturelle européenne. Voilà.
Merci de ce témoignage et de ces questions avec trois invités pour vous répondre ce soir. Florent Parmentier, vous êtes secrétaire général du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, spécialiste de l'Eurovision. D'ailleurs, vous êtes en train de co-écrire un livre intitulé « Géopolitique de l'Eurovision », c'est le thème de ce soir. Un livre qui devrait sortir à la fin de l'année ou début d'année prochaine. Invité également Oranie Abès, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Lorraine, vous êtes aussi spécialiste de l'Eurovision. Et Fabien Randan, journaliste à 20 minutes, et vous êtes l'auteur de Queerovision, paru aux éditions Double Ponctuation. Bonsoir à tous les trois. Alors notre auditeur s'inquiétait, ou plutôt condamnait, le fait qu'une partie des Français ont souvent parlé de ce concours de l'Eurovision comme le rendez-vous international du kitsch musical. J'ai peut-être posé la question à vous, Oranie Abès, enseignante-chercheuse à l'Université de Lorraine. Est-ce que cette perception un peu kitsch du concours est en train d'évoluer en France? Oranie Abès.
Alors oui, je pense que cette vision est en train d'évoluer au cours des... Oui. Est-ce que vous m'entendez?
Allez-y. Il y a un décalage, j'explique aux auditeurs, il y a un décalage de deux secondes.
Alors oui, je pense...
On va vous reconnecter. Je vais poser la question à Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF. Ce kitsch, il est complètement assumé aujourd'hui. Et cependant, disent notre auditeur, on fait un peu encore la fine bouche en France, même si ça semble évoluer?
On fait la fine bouche, oui. Le paradoxe, c'est que c'est un concours dans lequel les différentes nations européennes se comparent, s'évaluent depuis 70 ans. Et c'est le plus vieux spectacle télévisuel, la plus vieille émission de chant continue depuis cette date, qui fait des cartons d'audience au niveau international. Donc on peut voir un peu un décalage entre notre manque de culture de l'Eurovision en France et le décalage avec l'extérieur. Et on parlait de la Belgique. Peut-être qu'il y a quelque chose qui explique très simplement, si on dit rapidement les choses sur l'absence de vision des demi-finales, c'est que tout simplement la France fait partie de ce qu'on appelle le Big Five. Qu'est-ce que c'est le Big Five? C'est que la France est, quoi qu'il arrive, qualifiée pour la finale. On aimerait que ce soit pareil dans les compétitions sportives.
Parce qu'elle fait partie des 6 membres fondateurs, plus la Suisse, ça fait 7.
Ce n'est pas une question de membres fondateurs, c'est une question de financement. La part de financement des 5 principaux États de l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion, qui s'occupe depuis 1956 de ce concours, eh bien, ce qu'on voit, c'est que la France, faisant partie de ces États les plus gros contributeurs, il a été décidé au moment où les demi-finales sont apparues. Elles sont apparues en réalité au début des années 90. Ça nous amène cette perspective d'élargissement de l'Union, enfin d'élargissement de l'Eurovision. Et bien, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la France est qualifiée d'office. Les demi-finales n'entrent donc pas, en quelque sorte, dans notre champ de vision. Il faudrait dire un mot, peut-être, sur l'éditeur, sur la question des langues, très brièvement. Vous avez tout à fait raison, c'est un débat qui existe, qui est quasiment aussi vieux que l'Eurovision. Au tout début, on avait pensé en 1956 que c'était naturel et qu'on n'avait pas besoin de l'inscrire dans les règles. Et puis on a vu au gré des époques, le dernier changement en la matière était de 99, et bien que l'Eurovision permettait à chacun de chanter dans la langue qu'il souhaitait.
Fabien Randan, vous êtes journaliste à 20 minutes et vous avez écrit Queerovision, paru aux éditions Double Ponctuation. Chanter dans la langue de son pays, ça ne suffit pas? C'est souvent en plusieurs langues, en français, en anglais et la langue originale?
Non, ça suffit de chanter dans la langue de son pays et je trouve que la réflexion de cet auditeur est effectivement assez intéressante et on voit que là, cette année, la tendance, c'est justement les langues nationales. En finale, si je ne dis pas de bêtises, il n'y aura que 5 chansons en anglais, dont avec 2-3 pays dont c'est la langue nationale, mais sinon la part belle sera faite au français, à l'allemand, à l'italien, au lituanien, au letton. Il y a aussi l'Allemagne qui n'avait pas chanté en allemand depuis très longtemps, qui là propose une chanson en allemand. Donc c'est en train de changer. On voit que le public finalement international est prêt pour ça, pour des chansons dont il ne comprend pas forcément le sens, on va dire littéralement, mais il y a moyen de transmettre quand même une émotion ou de faire passer le message. Et juste pour revenir sur la vision en France de l'Eurovision, effectivement, je pense qu'il y a un snobisme autour du concours, comme si c'était de mauvais goût, de mauvais ton, de profiter aussi d'un divertissement assez spectaculaire. On parle souvent de kitsch pour l'Eurovision, et moi je préfère parler de camp, qui est une esthétique assez propre à la communauté gay, et où c'est le kitsch, mais le kitsch assumé, recherché, voulu, c'est le mauvais goût.
Comment vous dites,
sophistiqué,
le camp,
si vous voulez. Le camp, ça, le CAMP, voilà, comme quand, d'ailleurs ça vient du français, c'est un terme anglophone qui a été anglicisé, mais qui vient de camper un personnage. Et donc il y a vraiment cette idée d'être dans une forme d'exubérance, d'extravagance, et de jouer avec le mauvais goût, la vulgarité, l'ironie. C'est tout un concept qu'on peut retrouver au cinéma chez John Waters, par exemple. Voilà, et qui s'exprime à plein à l'Eurovision. C'est un endroit où il y a des propositions pour rire et où le ridicule n'est pas forcément subi, et voire n'est pas subi. Il y a jouer avec l'absurdité des choses. C'est assez intéressant de voir toutes les esthétiques qui peuvent être proposées.
Alors voilà pour l'aspect, j'allais dire, sociétal de ce concours, de ce télécrochet européen. On va se recentrer sur le thème de l'émission de ce soir, la géopolitique de l'Eurovision. Oranie Abbès, on vous a retrouvé. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Lorraine. Vous êtes aussi spécialiste de l'Eurovision. En quoi ce concours de l'Eurovision est-il politique ?
Alors, je préfère toujours parler de politisation, d'un concours politisé plutôt qu'un concours politique. Là où se trouve la nuance, c'est que le concours ne se revendique pas absolument politique par essence, mais disons plutôt qu'il est traversé par un certain nombre de tendances politiques que l'on peut retrouver en Europe et donc qui influencent les événements qui peuvent éventuellement s'y produire. Le concours a toujours été d'une certaine manière politisé, puisque, comme vous l'avez très bien rappelé en introduction, il a été créé notamment dans l'esprit de rapprochement des peuples. Donc, on peut en déduire que c'était déjà un projet politique, politisé. Et donc, c'est ainsi qu'on peut parler de politisation du concours.
L'Europe au sens large, parfois, Florent Parmentier, pourquoi des pays comme Israël, la Turquie, la Russie, l'Ukraine ont participé à ce concours ?
Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la géopolitique de l'Union européenne de radiodiffusion n'est pas celle de l'Union européenne. Les deux sont des éléments séparés. Si on se souvient, tout d'abord, l'Union européenne d'Eurovision, l'Eurovision, le concours, a commencé en 1956, un an avant le traité de Rome. Il a commencé, c'est peut-être ça qui entretient la confusion, avec 7 pays, 6 qui étaient les États fondateurs l'année suivante de l'Union européenne, et puis un 7e, la Suisse, qui est un État neutre.
Qui organise ce soir la finale.
Qui organise, il y a un retour.
Demain soir.
C'était à Lugano, ce sera à Bâle, mais en dehors de ça, effectivement, il y a une forme de boucle qui a pu se refaire. Donc, ensuite, ce qu'il faut observer, c'est qu'effectivement, tous les États européens n'y participent pas, certains ont été exclus. La Biélorussie, la Russie après l'invasion de 2022. Certains se sont, j'allais dire, provisoirement...
L'invasion de l'Ukraine, hein, je précise.
Oui, il faut le préciser. S'éclipsent certaines années. Je pense, par exemple, cette année, la Moldavie qui ne participera pas au concours. Et ainsi de suite. On pourrait parler de la Macédoine du Nord, on pourrait parler de la Turquie qui a participé à plusieurs reprises. Ce qu'il faut voir, c'est que chacun s'est en quelque sorte rapproché ou a voulu faire partie de cette sphère européenne, occidentale, à travers ce concours de chant. C'est particulièrement le cas, par exemple, d'Israël. Israël s'est rapproché finalement de l'Eurovision en 1972, c'est-à-dire juste après des attentats qui avaient eu lieu lors des Jeux Olympiques de Munich.
01 45 24 7000, c'est le principe de l'émission. On retourne au standard avec Bruno. Vous nous appelez de Guyane, vous êtes à Cayenne. Bonsoir Bruno, ou bonjour pour vous, enfin c'est la mi-journée pour vous.
Oui, bonsoir, oui.
Vous avez une question ou un commentaire ?
Oui, alors je voudrais faire un commentaire. Je considère que l'Europe, la France en particulier, elles sont porteurs de valeurs, en particulier de droits de l'homme, et je ne comprends pas qu'on puisse autoriser Israël à participer à des compétitions sportives, à des compétitions culturelles, à interagir avec les Européens, alors même que nous sommes dans un contexte où Israël déploie des opérations militaires affreuse de la bande de Gaza et s'exhibe donc aux yeux du monde comme pouvant parler avec tout le monde, y compris avec les démocraties européennes.
Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup de ce témoignage, un peu aussi en forme de question. Je vais revenir à vous, Orani Abès, enseignante-chercheuse à l'Université de Lorraine. On sait qu'il y a eu quelques appels au boycott visant la chanteuse israélienne. Elle a été sifflée, des drapeaux palestiniens d'envergure ont été déployés hier lors de la répétition générale. Cela dit, vous pensez, Orani Abès, que cette édition 2025 est plus apaisé que l'an dernier à Malmö. Pour quelle raison ?
Oui, alors totalement. Hein. On constate un grand apaisement, enfin, en tout cas un apaisement qui est bien plus marqué que cela ne l'a été l'année dernière. L'année dernière, c'est vrai que nous étions dans un contexte de tension extrême dans la ville haute qui, alors ne disons pas, n'était pas contente de nous accueillir, mais avait une certaine crainte aussi d'accueillir la compétition, la crainte que quelque chose puisse se produire. Parce que Malmö accueillait le concours. Mais disons que cette année, effectivement, nous voyons un service de sécurité qui est déployé dans la ville, comme pour tout grand événement, mais sans être omniprésent. Et on sent quand même beaucoup plus, je dirais, de légèreté que ça ne pouvait être l'an dernier. La candidate israélienne, effectivement, a été un petit peu chahutée durant la répétition d'hier, avec notamment des sifflets et des drapeaux palestiniens qui ont été brandis, et elle a été un petit peu chahutée, mais sans plus. Donc on constate que cette chanteuse israélienne peut répéter de manière plutôt calme et qu'elle va pouvoir en tout cas faire une prestation dans des conditions qui sont beaucoup plus apaisées et beaucoup plus tout simplement respectueuse de sa prestation que ça ne a peut-être l'an dernier à Malmö.
Fabien Randan, journaliste à 20 minutes, notre auditeur ne comprend pas qu'Israël puisse participer à ce concours de chant pour des raisons politiques. Donc, est-ce que l'UER qui organise ce concours a son mot à dire et qu'est-ce qu'il dit ? Comment choisit-il ? En fonction de quels critères interdit-il à un pays ou à un autre de participer ?
Alors l'UER, il faut rappeler que c'est une association de diffuseurs, hein, par exemple France Télévisions pour la France, la RAI pour l'Italie, et donc ce sont des diffuseurs qui se mettent autour de la table, et on n'est pas dans des diplomates, quoi, en fait. Hein, c'est pas les... Donc ce sont, on peut dire que ce sont les représentants de France Télévisions sont les ambassadeurs de leur pays, mais qui n'ont aucune vocation politique, de politique politicienne. Donc l'UER, en fait, quand la Russie a été exclue en 2022, parce que souvent le parallèle est fait entre l'exclusion et pourquoi la Russie a été exclue et pas Israël, eh bien c'est que l'Ukraine est aussi membre de l'UER et participe à l'Eurovision. Donc il y avait cette idée que les deux pays allaient potentiellement se retrouver sur la scène. Et aussi, il était plus facile pour l'UER d'imposer cette exclusion du diffuseur russe, Channel One, au motif qu'elle avait enfreint les critères d'éligibilité pour être membre actif, et autrement dit, enfreint en ayant fait de la propagande anti-ukrainienne en parlant de dénazification du pays. Mais effectivement, c'est arrivé dans un contexte où des États avaient aussi mis en place des sanctions contre la Russie, donc il y avait un effet domino d'une certaine manière. Là, en l'occurrence, les sanctions envers Israël sont inexistantes. L'UER, dans son coin, ne pas forcément exclure le pays de facto, ou en tout cas estime que la chaîne Kan, qui est donc la chaîne qui est membre pour Israël de l'UER, n'enfreint pas le code de conduite. Et si je voulais juste revenir sur la tension, effectivement l'année dernière ont été assez vives, et s'il n'y en a pas cette année, c'est parce que le code de conduite imposé aux artistes a changé.
Qu'est-ce qui a changé?
Désormais, il y a eu, en fait, l'année dernière, il y a eu des artistes qui ont pris position contre la présence d'Israël à l'Eurovision, en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, et ça crée donc des tensions. Le jour de la finale, hein, il y a eu la délégation israélienne qui intimidait les représentants de l'Irlande, notamment de la Suisse. Enfin, il y avait des artistes en pleurs, il y a eu vraiment des grosses tensions, ça a laissé donc des traces, et certaines délégations ont demandé des comptes. Donc l'UER a fait évoluer le règlement, et désormais, il demande aux artistes de ne pas prendre de position politique dans le cadre de leur participation à l'Eurovision, de tout événement lié à l'Eurovision. Ce qui fait que, d'un côté, les artistes n'ont plus à s'exprimer sur est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord sur la présence d'Israël. En fait, ça devient un sujet qu'ils ne doivent pas aborder, alors que même, ça n'empêche pas pour... Pardon.
Non mais c'est intéressant, mais on va pas passer la soirée sur le cas d'Israël.
Oui,
dernière question.
Pour être plus précis.
Une dernière question sur le cas d'Israël, c'est Julie qui nous la pose par écrit. Je vais vous la soumettre, Florent Parmentier, secrétaire général au CEVIPOF. Julie ne comprend pas, en dehors de toute considération actuelle, pourquoi Israël, qui n'est pas sur le continent européen, fait partie de l'Eurovision. Est-ce qu'on a une réponse précise à apporter ?
La réponse précise serait, mais c'est parce qu'ils sont membres de l'UER, de l'Union Européenne de Radiodiffusion, et qu'ils paient leur quote-part. Mmh. À ce titre, effectivement, c'était la contrepartie. Ils y participent tout simplement comme, j'allais dire, actionnaires, en quelque sorte, de ce consortium, s'il fallait faire une métaphore, une comparaison.
Raphaël est en ligne. Raphaël, avec un E, vous nous appelez de Paris. Bonsoir, Raphaël.
Bonsoir.
Quelle est votre...
Merci pour ma question.
Ah ben, allez-y, avec plaisir.
Je regarde chaque année avec beaucoup de ferveur l'Eurovision. J'adore ce concours. Et chaque année, en fait, au moment des points, j'ai le seum. Parce que je constate que les mêmes pays votent chaque année pour les mêmes, entre eux, géographiquement. Et personne ne fait ça avec la France. Et j'aimerais savoir s'il y a une explication.
Merci de cette question brève et intéressante, Florent Parmentier au CEVIPOF. Quelles sont les solidarités transrégionales qui apparaissent régulièrement dans ce concours de l'Eurovision ?
Vous avez raison de le souligner, l'auditrice. On pense par exemple au vote bien traditionnel entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, entre la Slovaquie et la République tchèque, et réciproquement évidemment entre la Roumanie et la Moldavie. On a eu pendant des années effectivement ce type de vote. Parfois ces votes sont encore plus surprenants. On a eu lorsque la Russie participe à l'Eurovision, une assez forte, un moment, un assez fort vote de la part des Pays-Baltes. On pourrait se dire, bah, comment se fait-il que les Pays-Baltes votent pour la Russie, alors même que les relations sont politiquement tendues? Eh bien, c'est lié à un facteur qui est le nombre de votants extérieurs, tout d'abord. Et dans le vote du public, il y a des formes de proximité, de coopération plus étendues. Dans les années 70, on a parlé d'un vote du Bloc du Nord. Et puis, on a parlé de ce vote centre-européen, est-européen, balkanique. On a eu plusieurs noms pour ça, mais de pays qui ont, à travers leur histoire, en fait, davantage interagi. Et donc, c'est essentiellement, effectivement, lié à cela. Pourquoi la France n'a pas de vote de bloc? Ça, c'est un élément intéressant. Si on regarde les pays pour lesquels les Français ont voté plus que la moyenne, on en trouve trois et c'est intéressant. On trouve Israël, dont on a parlé, on trouve le Portugal et on trouve l'Arménie.
Israël, parce que la France accueille la plus grande communauté juive et israélienne d'Europe.
Et un survote également pour les Portugais, tout simplement parce qu'il y a un grand nombre de Portugais qui, sous la dictature, sont venus en France. Et pour l'Arménie, il y a également ce lien particulier. Donc c'est vrai que c'est aussi peut-être lié au fait, en quelque sorte, que les Français ne sont pas massivement exilés à différents endroits. On pourrait regarder si les Français de Londres votent davantage à l'Eurovision que la moyenne des Anglais. Ce serait des éléments de statistiques assez fins qui permettraient de déceler ce genre de choses.
Oranie Abbès, enseignante-chercheuse à l'Université de Lorraine. On peut s'intéresser à vos travaux. Vous recherchez quoi en ce moment sur l'Eurovision? Est-ce que vous recherchez ces solidarités transrégionales?
Alors oui, totalement. Ce qui est intéressant surtout d'observer, c'est vraiment le rapport qu'entretiennent les pays à l'Eurovision et la manière en fait dont la diplomatie peut se créer sur la scène du concours.
Par exemple, ceux qui ont déployé, on va revenir sur le cas israélien, mais parmi ceux qui ont déployé le drapeau palestinien hier soir, ils peuvent être de quelle nationalité? L'Irlande, par exemple, qui s'affiche régulièrement comme pro-palestinienne?
Alors, c'est très difficile de donner ou d'attribuer une nationalité aux personnes qui ont brandi le drapeau palestinien. Nous ne savons pas réellement. On a eu quelques manifestations pro-palestiniennes, en tout cas pour la Palestine, devant l'hôtel de ville pendant la cérémonie d'ouverture de la compétition. Mais voilà, des manifestations qui étaient très, très pacifistes. En fait, la loi suisse autorise justement l'entrée des drapeaux palestiniens dans l'arène du concours. Il est effectivement très difficile en fait de pouvoir répondre à cette question très précisément. Mais ce qui est important, c'est vraiment effectivement d'observer comment finalement le concours peut venir à la fois recréer une part de communication ou au contraire aussi aggraver certaines tensions, comme ça peut être le cas entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabakh.
Eh bien justement, Benjamin, je crois, a une question sur ce sujet. Benjamin, vous nous appelez de l'Aisne, je crois. Bonsoir, Benjamin.
Oui, bonsoir. Alors moi, effectivement, l'Eurovision, c'est un concours que je regarde depuis hyper longtemps, depuis une bonne dizaine d'années, je dirais. Et effectivement, c'est une question qui peut se poser, parce qu'on pose la question, effectivement, d'Israël. Mais pourquoi est-ce que l'Azerbaïdjan participe? On peut aussi se poser la question par rapport au conflit, effectivement, avec l'Arménie, même si aujourd'hui n'est pas aussi médiatisé que les autres.
Eh bien, je vais poser la question, mais je crois qu'on a déjà eu la réponse, hein, Florent Parmentier. J'ai juste rappelé que depuis le début de la Première Guerre mondiale, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent la possession du Haut-Karabakh. C'est un territoire qui a proclamé son indépendance. Et puis, les espoirs ont été déçus en 2023, quand les troupes azerbaïdjanaises ont donc vidé ce territoire de sa population. Je soupçonne votre réponse, Florent Parmentier, au Sevipov. L'Azerbaïdjan n'est pas à l'UE.
Alors,
elle l'est justement.
Elle l'est. Elle n'est pas l'Union européenne. Mais pour ajouter quelque chose, il faut aussi mettre ça en perspective avec cette volonté après 1992 d'un grand nombre d'États centre-européens, est-européens, d'Europe orientale qui nous disaient en substance, et même du Caucase, qui nous disaient nous voulons apparaître quelque part sur la scène européenne. Et en fait, ce qu'on a vu en 1956, c'est la réunion des ennemis d'hier, c'est le fait de chanter entre Français, Allemands, Italiens, quelques années après une guerre. Mais ce qu'on ne voyait pas, c'était toute une partie de l'Europe qui, après 92, revendique le fait de pouvoir revenir dans le jeu. Et donc, ça s'explique à la fois par le fait de payer à l'UER, mais aussi la volonté de l'Azerbaïdjan et d'autres pays de participer à ce grand spectacle.
Je vous ai appelé Laurent Parmentier, on va dire Florent Parmentier. Pardon d'avoir écorché votre prénom. Fabien Randan, vous êtes l'auteur du livre intitulé « Queerovision aux éditions double ponctuation ». Comment ce concours de l'Eurovision est-il devenu, au fil des années, à l'avant-garde des représentations queer ?
Eh bien, on va dire qu'il y a une sorte de fidélité du public gay, particulièrement au concours, et qui d'ailleurs lui permet de vivre tout le reste de l'année. Si le concours Eurovision de la chanson est aussi fort aujourd'hui, il doit beaucoup à la communauté LGBT, puisque c'est cette communauté qui principalement va aider à la faire vivre dans les blogs, sur les chaînes YouTube, etc., tout au long de l'année, en regardant les sélections nationales, etc. Et surtout, le concours Eurovision de la chanson a été un reflet aussi de l'acceptation des personnes LGBT en Europe, de l'évolution de leurs droits. Et le changement s'est surtout marqué dans les années 90, parce que c'est à la fois l'époque où certains pays commencent à mettre en place les unions civiles, où on est après le plus dur des années SIDA. Donc il y a toute une réflexion sur la lutte contre les discriminations aussi qui se met en place, et une acceptation qui commence à être plus grande. Et puis aussi, l'homosexualité sort en 1992 de la liste des maladies mentales. Ça s'est répercuté aussi sur la scène du concours, où le premier candidat ouvertement homosexuel, c'était Paul Oskar, un Islandais, en 1997. Et 1998, la victoire a été remportée donc par Dana International, israélienne, et femme trans, première femme trans à remporter sur le concours. Donc ça a été vraiment ces deux exemples de visibilité du concours, dans lequel une partie du public de la communauté LGBT s'est sentie représentée et célébrée.
En 98, donc, la victoire d'une femme trans, et puis en 2014, Oranie Abess, la victoire de la drag queen autrichienne Conchita Wurst. Ça a été un tournant dans ce concours là aussi.
Oui, ça a été un tournant, d'autant plus que la victoire est intervenue suite à la polémique lancée par Vladimir Poutine, hein, de vouloir retirer la Russie du concours, puisqu'il citait que le concours faisait l'apologie d'une femme à barbe. Et donc, bien sûr, je pense que ça a créé effectivement un tournant, avec une caisse de résonance qui n'a fait que se décupler pour les minorités de genre et les minorités sexuelles au sein du concours. C'est parfaitement intéressant à observer. On a eu aussi le cas de Bilal Hassani en France. On a eu le cas de Nemo l'année dernière, qui est le premier artiste non-binaire sur la scène du concours. Donc on voit comment finalement le concours a évolué et est devenu une caisse de résonance aujourd'hui très importante pour la communauté LGBT. Je crois que le tournant le plus fort, alors certes Conchita Wurst en 2014 est un tournant, mais le tournant, c'est Dana International, la première femme transgenre à gagner l'Eurovision.
En 1998.
En 98 exactement, ça a été vraiment un événement historique, notamment en Israël, ou même en Égypte, des copies en fait du CD de Dana International se vendaient sous le manteau. Donc on voit à quel point en fait cette victoire a eu un impact à la fois pour les minorités sexuelles, mais aussi a créé un tournant en fait dans le concours, qui est vraiment devenu un endroit, on va dire d'une certaine manière protégé, et une manière pour les minorités de genre de s'y exprimer librement.
Oui, et Moscou qui donc réagit. Moscou réagit à ces chanteurs de genre comme étant le symbole d'une Europe corrompue moralement. La Russie, Florent Parmentier, virée de l'Eurovision après son invasion de l'Ukraine en 2022. Et puis Vladimir Poutine a lancé son propre concours international de l'Eurovision. Ça donne quoi ?
L'Intervision. Alors il faut savoir qu'il a existé pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y avait cette idée, effectivement, en regardant ce qui s'était fait à l'Eurovision, et bien d'organiser une forme d'Eurovision des pays du bloc communiste. Et donc, qui avait lieu chaque année à Sopot, qui s'est déroulé quelques fois. En réalité, il n'avait pas la régularité et l'ancrage qu'avait pu avoir l'Eurovision, mais c'était une tentative de la part de l'Union soviétique d'organiser en Pologne, donc à Sopot, un concours. Il est relancé aujourd'hui. Donc il faudra attendre de voir quels sont les pays autour de la Russie.
Parce que qui va y participer ? J'allais vous poser la question.
eh bien, la Russie entend faire participer les États du BRICS ou entend faire participer les États post-soviétiques, comme on les appelle, qui ne sont pas que post-soviétiques, 30 ans après l'effondrement, évidemment, de l'Union soviétique, mais disons d'un certain nombre de pays amis auxquels eh bien, on peut s'attendre à ce qu'aucun État de l'Union européenne ne participe, sauf surprise.
Et là, ce concours de chant international, c'est aussi l'occasion pour certains pays, certains chanteurs. Je vais vous poser la question à vous, Fabien Randan. L'occasion pour des chanteurs, de, à travers leurs paroles de chansons, de faire un peu de géopolitique, quitte à cacher certains messages.
Oui, il y a souvent, alors on peut parler de l'exemple de l'Arménie en 2015 qui avait constitué un groupe avec un artiste de chaque continent pour représenter la diaspora arménienne et qui avait intitulé la chanson « Don't Deny ». Donc on était 100 ans après le génocide arménien en pleine commémoration et donc ce titre « Don't Deny » ne niait pas, était clairement à destination de la Turquie qui ne reconnaît pas ce génocide. Donc l'UER là a tapé du poing sur la table et a dit si voilà, il faut changer le titre. Donc le titre a été changé, mais parfois ça a été le cas de la Géorgie qui avait eu une chanson avec un titre anglais We don't want to put in qui s'entendait comme We don't want to put in, on ne veut pas de
on n'en veut pas Poutine. De Poutine. Eh bien,
voilà, on n'en veut pas de Poutine et voilà, l'UER a dit ah non, là c'est des paroles trop politiques, ce n'est pas possible, il faut une autre chanson. Et la Géorgie avait décidé donc de se retirer, c'était, si je ne dis pas de bêtises, au début des années 2010. Mais voilà, donc il y a toujours fréquemment des messages qui passent à l'Eurovision, puisque même s'il ne faut pas faire de politique, a priori à l'Eurovision, l'art est politique, et à travers des paroles, des symboles, on peut toujours exprimer des choses.
Florent Parmentier, il y a une géopolitique du drapeau. Beaucoup de drapeaux se manifestent. C'est aussi de la géopolitique à cette soirée, à cette finale de l'Eurovision.
La géopolitique se manifeste de plusieurs manières, mais ce qui est certain, c'est que c'est un grand spectacle de 170 millions de téléspectateurs, à peu près, qui auparavant, en fait, n'avaient pas non plus tout le rayonnement qu'ils peuvent acquérir via la diffusion d'un certain nombre de messages, de chansons YouTube, qui sont ensuite reprises et réinterprétées. Donc oui, il y a à la fois des achats de votes, c'est un élément géopolitique, il y a des volontés des États de participer.
Redites-nous ça, il y a des achats de votes, ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi?
Des achats de votes, non. Je voulais dire des logiques de vote de bloc.
Ah oui, je comprends mieux.
C'est différent. Tout un tas de questions s'étaient posées par le passé, de savoir qui votait. C'était seulement des jurys nationaux, professionnels, ou des jurys populaires. On a aujourd'hui les deux, mais il y a eu plusieurs modalités de vote tout au long de l'histoire de l'Eurovision. Et puis, donc, si vous voyez un grand événement chaque année où chacun participe avec son drapeau, en quelque sorte, c'est un peu l'idée de montrer la carte postale la plus séduisante de manière à... et c'est particulièrement important pour certains pays, ça a été particulièrement important pour l'Europe du Nord. La victoire de ABBA en 1974, chanson des 50 ans, voilà, a permis de montrer une Suède un peu différente de ce que l'on pouvait attendre, plus dynamique, et en quelque sorte a fait passer un concours qui était... gentiment, un concours plus de variété en 1956, c'est un concours traversé par la pop de plus en plus. Et donc on a, voilà, sur ce biais-là, en fait, la volonté à la fois, il y a une géopolitique des États, des pays candidats, des messages qui sont...
Et une façon de montrer pour un pays comme l'Ukraine qu'elle appartient à l'Europe, c'est aussi un message politique.
Très clairement, ça a été la volonté essentielle qui a expliqué pourquoi l'ensemble des pays d'Europe centrale a très rapidement voulu et a obtenu en quelque sorte son élargissement au sein de l'Union européenne, sa réconciliation européenne, avant même d'avoir pu participer, pour la plupart, et d'être membre de l'Union européenne.
Oranie Abbès, c'était peut-être un lapsus de Florent Parmentier, mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a eu des tentatives de corruption de ce concours ?
Alors ça, on ne peut jamais l'affirmer. C'est une question évidemment très, très sensible. Il s'était posé le cas, me semble, dans les années 2010, dans le cas de l'Azerbaïdjan, qu'il aurait peut-être effectivement eu des distributions de cartes SIM étrangères dans le pays, en fait, pour que les Azéris, en fait, puissent voter pour leur propre pays. Mais ce sont des choses, en fait, qui ne sont pas, qu'on ne peut pas confirmer. Des tentatives de corruption, non, mais on sait
sait qu'il y a toujours des discussions, notamment au sein des ambassades, pour faire passer le message de voter massivement pour la diaspora. Enfin, voilà, on sait qu'il y a un certain nombre comme ça de communications, en tout cas, qui sont faites, qui sont orientées pour orienter le vote, mais en tout cas pour encourager à voter pour un pays en particulier. Mais de là à dire qu'il y aurait eu peut-être des corruptions, c'est un vite en besogne.
Il nous reste moins d'une minute. Je vais vous poser la question, Fabien Randan. Pourquoi y a-t-il interdiction cette année de déployer des drapeaux LGBT+ ? Ça gêne qui ?
Alors, le public a le droit de déployer les drapeaux qu'il veut tant que ça n'enfreint pas la loi suisse. En revanche, ce sont les artistes qui n'ont le droit qu'au drapeau du pays qu'ils représentent.
Nous avons perdu.
Strict politique.
Allez-y, allô. Vous êtes à l'antenne, allez-y. On vous a perdu 3 secondes, mais ça y est, vous êtes revenu. Il vous reste 20 secondes.
Alors voilà, eh bien je pense que c'est une politique stricte, c'est pas tant les drapeaux LGBT qui posent problème, c'est juste que peut-être la crainte de voir des drapeaux palestiniens, israéliens ou d'autres pays brandis par les artistes pendant la finale. Et on est dans cette logique de ne pas prendre de position politique.
Eh bien, merci. Merci à tous les trois d'être venus éclairer nos lanternes. Le téléphone sonne, c'est terminé. Et donc, rendez-vous demain, à partir de 21h. Ce sera à Bâle, en Suisse, donc la finale, pour écouter les prestations, dont celle de Loane pour la France, une balade qu'elle interprétera sous une pluie féerique de sable. Enfin, pour des raisons de sécurité, le sable est devenu des billes de liège. C'est moins dangereux. La Suède, l'Autriche, favorite, vous cautionnez ?
Oui, très probablement, ce sont des États qui ont l'habitude.
Merci beaucoup, on va vérifier ça demain en fin de soirée, à qui seront attribués les points. À suivre, l'heure philo, votre heure philo, Patricia Martin, ce sera une autre petite musique ce soir.
Oui, bonsoir cher Eric. On va parler du silence, des silences, c'est tout autant un concept qu'une expérience avec Laurence Joseph et Stéphanie Baudet.
Les silences qui sont assez peu appréciés à la radio, mais qui signifient toujours quelque chose de notre intimité. On lira soi les livres de vos invités ce soir, tout à l'heure.
Je sens déjà que vous les voulez.
C'est avec qui, vos invités ?
Stéphanie Baudet, il n'écoute pas ce que je dis. Stéphanie Baudet et Laurence Joseph.
Ben voilà, ça va mieux en le disant. L'heure philo, 20h10, après le flash de 20h, et après les petits bateaux, qui ont toujours une question pertinente à poser.
Bonjour, je m'appelle Violette, j'ai 6 ans, et je voudrais savoir à quoi ça sert les cils. Merci, au revoir.